à vous écouter tous les deux,
on est d'accord.
Une forme de renforcement de cette carte des deux Amériques. Vous avez vu ces cartes, le code de couleur, c'est les rouges, ce sont les républicains, les bleus, ce sont les démocrates. Si on regarde sur une carte des États-Unis, les deux côtes sont massivement bleues, il y a un ou deux points bleus au centre, l'Illinois, le Minnesota et quelques autres. Et puis sinon, un océan de rouge. Et de nouveau, on a cette idée, cette grande problématique entre d'un côté l'emploi industriel qui est en déclin, qui est parti, et beaucoup ont les doutes les plus forts sur la capacité à faire revenir ces emplois qui ne sont pas des emplois d'avenir vers les États-Unis. Et puis de l'autre côté, ces recettes que vous nous donnez, qui sont importantes, hein, sur la nécessité pour l'État, la puissance publique, d'investir massivement, en particulier sur certaines zones ciblées, que nous, en France, on pourrait appeler des zones franches, ou des zones dans lesquelles l'État va cibler certaines populations et investir. Mais il y a une espèce de dissensus, de ligne de fracture. Comment est-ce que on met dans un même projet économique les États-Unis de Palo Alto, les États-Unis de la route 128 autour de Boston, donc, et Cambridge, qui est ce centre de l'intelligence économique et de l'invention, et des business angels, et puis cet ouvrier d'une papeterie du Maine, dans le nord du Maine, qui n'a aucune perspective économique dans les 30 prochaines années, et dont la seule perspective en matière d'emploi est de se déplacer vers d'autres endroits, parce que, quoi qu'en dise Donald Trump, sa papeterie ne reviendra pas et ne réembauchera pas d'employés. Et quelle est la proposition, quelles sont les idées que donne Hillary Clinton, mis à part un investissement massif de la part de l'État? Et on sait que l'État aussi, aux États-Unis, a des limites financières, et on y reviendra sur d'autres aspects.
Il y a des projets, il y a des plans pour sauver les petites business, les middle-sized businesses. Mais moi, je n'aurais pas confiance en Donald Trump. Parce que Donald Trump, il pense qu'il y a des winners et losers. Il y a des perdantes et les gagnantes. Il n'y a que ça. Et si votre petite compagnie fiche le camp, eh ben c'est parce que you're a loser. Et je ne sentirai jamais ça avec le Parti démocrate. Et d'ailleurs, on est blâmé qu'on investe... on tourne toujours vers le gouvernement, le federal government, pour aider les compagnies en détresse, les démocrates. Et peut-être c'est vrai, peut-être on dépense trop, on est trop dépensier, mais c'est justement pour sauver les situations. Et finalement, c'est jamais les démocrates qui laissent le pays avec un énorme déficit, c'est souvent les républicains qui laisse des...
What? No.
Et 2008... OK. Et puis, les emplois sont toujours plus hauts sous les démocrates. Vous n'avez qu'à regarder les graphes et les schémas. Mais, Vincent, vous êtes l'expert. Dites-moi si j'ai raison ou tort.
Tort.
Vincent.
Ce n'est pas à moi de dire. Enfin, on peut rappeler des faits historiques. On peut rappeler des faits historiques, certes, mais on peut aussi dire que la dérégulation a produit des effets. Et Marc pourrait expliquer quels sont les effets de cette dérégulation. Et la dérégulation, elle a été mise en place autant aux États-Unis par des administrations démocrates que par des administrations républicaines. Alors, à un degré moindre, certes, du côté démocrate, mais la bulle qui a éclaté en 2008 est une bulle dont la responsabilité est largement partagée entre les deux partis, quand bien même le parti au pouvoir, et je vous l'accorde, Constance, était le parti républicain lorsque la crise éclate. Faut-il remonter au New Deal et à la crise de 1929 pour dire effectivement elle a lieu sous une administration Hoover? Je crois que la comparaison ici n'est pas raisonnable. Marc.
Oh là 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 là. Wow, ok. Vous avez bien simplifié les choses pour créer une argumentation qui aide certains. D'accord. Mais finalement, les Républicains n'étaient pas au pouvoir dans le Congrès pendant la crise. Ça, c'est une petite précision qui était très importante. Alors, le président était républicain, mais le Sénat et the House of Representatives étaient chez les démocrates. Alors, c'est eux qui ont passé toutes les lois, qui ont dépensé l'argent comme n'importe quoi, et on n'a plus de l'argent. Surprise! Alors,
tout à fait.
Si je peux.
Non, non, mais juste une chose, puisqu'on a. We're into fact-checking at this point. Juste une chose. D'abord, la dérégulation, ce n'est pas quelque chose qui s'est mis en place pendant les années 2007-2008, pendant lesquelles, effectivement, on a un président républicain et une majorité démocrate à la Chambre des représentants et au Sénat. Bon, ça, c'est la première chose. Ce sont des tendances lourdes. La dérégulation commence sous Bill Clinton, très largement, et avant même ça,
sous
Ronald Reagan. Donc,
sur Kennedy avant ça, jusqu'à Washington. Si je peux expliquer
simplement, pour dire, on n'est pas sur du blame game, sur des moments très très précis, ce sont des tendances, c'est de l'histoire longue. Donc, mais je crois qu'il vaudrait mieux que vous puissiez nous dire, justement, comment on va parvenir à unir ces deux Amériques, à faire converger Palo Alto et l'ouest de la Pennsylvanie. Comment, et là encore, je crois que vous êtes devant un auditoire qui est lui-même le reflet d'un peuple qui a une certaine forme de scepticisme par rapport à ce type de projet qui dit les délocalisations vont cesser. Et c'est vraiment au cœur de la rhétorique de Donald Trump. Et on aimerait vous entendre concrètement nous dire comment on va y parvenir.
D'accord. Mais premièrement, il y a une précision sur les endroits républicains et démocrates. Comme vous avez dit, qu'il y a une grande option rouge au centre avec les bleus aux côtés. Mais en fait, si on voit, ça c'est le côté présidentiel, ça c'est le niveau présidentiel. Sur le Congrès, sur les meilleurs, sur les comtés, on peut voir que les rouges et le bleu qui se mélangent très très bien ensemble. Alors si on ne commence pas de travailler ensemble, on ne peut pas avancer le pays. Alors les choses concrètement maintenant qu'on est en plein bataille, et ça c'est pas vraiment un moment pour réflexion, c'est un moment pour attaque, comme vous avez bien vu. Alors on peut faire une réflexion après on gagne les élections et après on peut créer les liens qu'on a bien brûlés pendant les élections. Mais les choses concrètement, c'est difficile. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit sur le niveau fédéral, le niveau à Washington, ça ne marchait pas assez efficacement si le peuple peut gérer leur propre vie, leur propre ville, leur propre région, leur propre État. Alors, laissez les États de faire les expériences, l'expérimentation dans les États, et on peut choisir les États qui marchent, les modèles, les modèles économiques qui marchent bien. Et ça a marché très bien aux États-Unis depuis très, très longtemps. Alors, le président, qu'est-ce qu'il peut faire, franchement, concrètement? Alors, il n'a pas assez de pouvoir comme le président français. Alors, votre président, il a beaucoup, beaucoup de pouvoir à rapport des Américains. Alors, le président doit travailler avec le Congrès. Je ne veux pas commencer de lancer dans une attaque sur mes collègues, mais franchement, on doit vraiment créer un respect sur les deux côtés. Alors, beaucoup pensent que M. Trump, il est vraiment un taureau, il est vraiment quelqu'un qui il est quelque chose, c'est vrai. Mais en revanche, il ne dit pas que les gens sont les perdants, les ratés. Il a dit qu'ils ont raté cette situation. Si vous regardez son émission, vous pouvez dire qu'il a dit « raté dans cette situation ». Vous n'êtes pas un raté. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de très talentueux, mais vous avez raté cette situation et je ne peux pas continuer de travailler avec vous dans cette entreprise. Mais il y a beaucoup d'opportunités pour vous parce que notre pays peut pousser les emplois, les situations, les opportunités. Si on protège notre pays avec la mondialisation, qui contrôle les choses comme ça? Google, Facebook? Alors, on ne peut pas continuer comme ça. Qui peut faire confiance à Google, à Facebook, à Julian Assange et le mec à Moscou qui ne peut pas revenir chez lui? Ils ont dit vraiment qu'on est dans une situation très, très grave. Le peuple le sent. Le peuple sait ça, vraiment qu'il y a des problèmes. Mais le peuple, ils ont leur propre vie. Ils ont leur famille. Ils ont leur boulot à faire. Alors, il n'y a pas le temps pour vraiment réfléchir de tout ça. Alors, pour l'instant, c'est à l'attaque pour gagner les élections. Et après, j'espère qu'on peut vraiment créer les ponts pour comprendre les États qui sont réussis, les États qui étaient en train de faire la faillite, parce qu'il y a un certain nombre.
Alors, on va passer sur un autre aspect un peu différent. S'il y a une chose qu'on associe aux 8 ans de présidence de Barack Obama, c'est ce qu'on a appelé l'Obamacare, c'est la réforme de l'assurance maladie aux États-Unis. Et là, on a deux candidats qui sont sur des positions extrêmement différentes. D'un côté, Hillary Clinton, qui appelle à une amplification, une consolidation du Obamacare, qui a aussi exprimé un certain nombre de critiques sur le fonctionnement du système, son financement, parfois son caractère sans doute un petit peu rigide, contraignant ou bureaucratique. Et puis de l'autre côté, on a un candidat pour lequel, et Marc, vous me direz si je trahis sa pensée, Obamacare est une catastrophe bureaucratique, un monstre, une abomination qui doit être totalement repensée, qui doit être d'abord abrogée par le Congrès, et puis ensuite, dans un deuxième temps, il faut repenser le système de l'assurance maladie aux États-Unis. Et ce que j'attends de vous, c'est que vous nous disiez, puisque la critique est radicale et que je me suis permis de la faire pour vous, Obamacare doit être remplacé. Sous quelle forme? Avec quel principe? Et dans quel objectif? Donc, dans un premier temps, Constance, dites-nous quelle est la façon dont Hillary Clinton entend justement prolonger, consolider, amplifier ce qui est la réforme phare qu'a conduite Barack Obama pendant ses 8 ans de mandat.
D'abord, c'est garder les 3 grands points très importants qui étaient gagnés avec Obamacare, je vous dirai ce qu'ils sont, et baisser le prix maintenant. Et trouver un système moins onéreux, moins compliqué, parce que en passant Obamacare, the Affordable Care Act, c'était pratiquement impossible. Vous savez, ça fait des décennies qu'on essaie de passer un projet de santé aux États-Unis parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas du tout, qui sont pas du tout couverts. C'est catastrophique pour un pays riche d'avoir autant de gens. Donc, il fallait trouver quelque chose où tout le monde serait couvert. En essayant de faire ça, il y avait un compromis fait. Et croyez-moi, parce que j'étais sur le côté démocrate et tous les jours, quand je mettais la télé ou je lisais les journaux, je dis, non, mais mince, encore un point où Obama est obligé de céder, c'est pas possible. Ça va être un système de santé horrible. C'est pas où il a commencé, mais on a fini avec quelque chose et on a signé un Health Care Act, quelque chose qu'on n'a pas eu depuis le Social Security Act, en fait. Donc, c'était énorme. Mais c'est vrai, ce n'était pas génial. Et aujourd'hui, Hillary Clinton ne veut pas jeter le bébé avec le bain. Elle veut garder tout ce qu'on a gagné, qu'on a pu passer. Et vous savez, c'est très important ce qu'on a pu passer. Pre-existing care, je ne sais pas comment le dire en français. C'est-à-dire, si vous avez déjà une maladie et vous cherchez à être couvert, vous êtes obligé, l'assurance est obligée de vous couvrir. Ça, c'est une chose. Parce que là, si vous alliez avant trouver une assurance, si vous aviez déjà quelque chose, vous ne trouverez pas aux États-Unis. C'était inhumain. C'est pas possible. La deuxième chose, c'est que maintenant, on peut garder ses enfants sur l'assurance des parents jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est ça, maintenant. Donc, un enfant de 18 ans qui serait coupé de ses parents parce qu'il est majeur, et il peut être encore protégé pendant
7 ans.
Quelques années jusqu'au moment où il peut trouver du travail, etc. Et puis, quel était le troisième grand acquis? Et puis, il y avait un troisième grand acquis, si quelqu'un dans le...
Rescission. C'est-à-dire la possibilité pour les assurances, les compagnies d'assurance maladie, de cesser d'assurer ou de plafonner les soins.
Oui.
C'est-à-dire l'idée qu'à partir du moment où certaines couvertures maladie impliquaient un plafond, à partir du moment où vous aviez atteint le plafond, vous n'étiez plus couvert. Donc ça s'appelle en anglais rescission. Et ça a été un des...
Et aussi, vous savez, quand vous changez de boulot aux États-Unis, vous perdez votre assurance. Alors là, ça n'existe plus non plus. Ça, c'était, pour moi, c'était le troisième grand acquis. Donc, il y a quatre grands acquis sur ce qu'il a eu. Maintenant, il faut trouver quelque chose qui est abordable, qui marche. Mais il y a quand même 11,5 millions de plus de personnes qui sont couvertes. Je peux parler de mes propres enfants qui vivent aux États-Unis, la facilité maintenant qu'ils ont pour être assurés. Et ils n'ont pas pu être assurés avant. Ils ne pouvaient pas. C'était quasiment impossible. Donc, il y a des acquis et il y a des choses qui marchent moins bien. Mais je sais au moins, on ne va pas jeter le plan complètement avec Hillary Clinton. Et elle est très, très astucieuse. Vous vous souvenez, quand Bill Clinton est devenu présidente, la première chose qu'il a fait, elle est allée au Congrès avec un health plan. Et c'était immédiatement jeté dehors. Et puis, elle a eu un énorme défaite avec ça. Mais elle connaît le healthcare problem de A à Z. Et c'est une question aussi de politique, parce qu'il y a des gens aux États-Unis qui ne pourraient jamais faire un single payer parce que c'est trop socialiste, c'est trop comme c'est le système que vous avez en France. Ça change, ça commence à changer un petit peu, mais c'est votre système et c'est un système qui marche très bien. Peut-être vous ne pensez pas, mais par rapport à ce que nous avons aux États-Unis, ça marche vraiment, vraiment bien.
Mark.
Oh là là là. OK. Premièrement, ce sujet est très, très complexe. Ils ont bien simplifié les choses, beaucoup. Alors, premièrement, Obamacare n'est pas une réforme de la santé. C'est une réforme de l'assurance de la santé. Et les entreprises d'assurance ont gagné beaucoup de l'argent jusqu'ils ont perdu beaucoup de l'argent sous Obamacare. Alors, la corruption, les mensonges autour de ça, je ne veux pas commencer de discuter tout ça, mais c'était incroyable. Le problème avec la santé aux États-Unis, c'est un problème grave, comme partout. Avant, on avait les hôpitaux de la comté. Alors, ça, c'était toujours pour le public, pour les très, très pauvres, et c'était toujours une accessibilité aux hôpitaux, aux médecins. Moi, à Los Angeles, j'ai travaillé dans une clinique qui a aidé les pauvres. Alors, maintenant, ça, c'est détruit, ce système. À cause de la centralisation des entreprises d'assurance, Obamacare est à la faillite dans beaucoup d'États, parce qu'en fait, les États, ils ont le choix de participer dans le système fédéral ou créer le propre. Mais ça, c'est un mélange entre les deux systèmes. Et maintenant, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'assurance parce que les prix sont flambés. Les prix sont... Ces mois-là, en Minnesota, en plusieurs États, les prix doivent flamber par 40%. Comment on peut faire une famille pour payer tout ça, 40% dans un an? Alors, les familles font le budget chaque année pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent acheter. Maintenant, on ne peut pas acheter de nourriture parce qu'ils doivent payer pour l'assurance de la santé. Bien sûr, ça a aidé les gens. Alors, on ne peut pas dire que c'est pour rien. Mais en fait, c'est un système qui ne peut continuer de marcher parce que le financement derrière ce système ne marche pas non plus. Comme Mme Borde a dit au début, cette loi a été créée quand Obama était dans son premier mandat avec un Sénat, avec un House of Representatives, démocrates. Ils ont peur, ils ont refusé de travailler avec les républicains pour trouver une solution bipartisane. Ils ont vraiment fait ça très très vite et en fait ils ont créé une loi insupportable. Ils ont mal écrit la loi parce que, en fait, ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils ont écrit. Il y a beaucoup de petites choses dans la loi qui ne marchent pas non plus parce qu'ils étaient trop vite de passer la loi. Alors, ça, c'est vraiment un détournage. On doit travailler ensemble. On est un pays avec deux grands partis. On n'est pas une dictature avec une partie. Alors, pour essayer de pousser les républicains, comme ils ont dit le premier mandat d'Obama, c'est insupportable. Et ça, c'est le résultat. Alors, les républicains, on a un plan pour remplacer cette réforme de l'assurance de la santé, pour vraiment recréer un autre marché, un marché libre qui marche. Et c'est les États pour vraiment avoir une liberté sur la santé. Il y a certaines choses qui sont très bien, comme Mme Borde a dit, mais on pourrait négocier ça il y a 8 ans. Mais ils ont pris le pouvoir, ils étaient un peu bourrés avec le pouvoir, et ont créé ce bordel maintenant. Pardon, excusez-moi. Pardon, alors, je suis allé un peu trop loin là. Mais ça, c'est un sujet un peu passionnant, et quand j'ai entendu ça...
Alors, il nous reste peu de temps et je voudrais vous poser à tous les deux la même question. Et l'Europe ? C'est une campagne dans laquelle on a beaucoup parlé des questions de sécurité, on a beaucoup parlé des questions de lutte contre le terrorisme, avec des propositions dans les deux camps qui sont là encore très différentes. On a eu 8 ans d'une présidence qui n'était pas terriblement intéressée par l'Europe, très clairement. Comment est-ce que vous voyez, l'un et l'autre, la façon dont votre candidat regarde l'Europe ? Est-ce que l'Europe est centrale dans leur vision géopolitique ? Est-ce qu'elle est marginale ? Parce que finalement, elle poserait très peu de problèmes par rapport à d'autres régions du monde. Et comment est-ce que vous voyez l'Europe en dehors, simplement, mais là aussi, je vous encourage à y faire allusion, en dehors du traité, par exemple, de libre-échange qui est en train d'être négocié, le fameux TAFTA.
Je pense que pour Obama, la priorité était les États-Unis. C'est certain parce que la situation était si catastrophique quand il est arrivé. Donc, disons, 2 ans, 3 ans passés vraiment à concentrer. Ça, c'était un grand service qu'il a fait pour le reste du monde, d'ailleurs, parce que tout le monde a pu ressortir de la crise parce qu'il s'est concentré et je pense qu'il a fait des bonnes manœuvres. Mais l'Europe, pour lui, était toujours quelque chose d'acquis. Et il a concentré sur, beaucoup plus sur le Pacifique, c'est certain. Il pensait que c'était très important, que le montée de la Chine, que Japon, tous les pays du Pacifique étaient peut-être plus importantes pour les États-Unis et pour le reste du monde, essayer de faire des traités visés sur cette région du monde, qui n'a pas forcément marché très, très, très bien. On ne sait pas encore quel sera le résultat. Les gens n'ont pas l'air de supporter le TPP et cet pacte de libre-échange avec les pays du Pacifique. Donc, on ne sait pas où ça va terminer. Mais l'Europe, je pense que Obama ne voulait plus mettre les troupes. Il a retiré les troupes en Afghanistan. Il a retiré les troupes en Irak. Ça on peut dire... Ce n'est pas l'Europe que je parle là, mais il n'est pas resté aussi engagé que, disons, la France était dans le Moyen-Orient. Et puis, il n'a pas eu les mêmes, disons, alliances que d'autres présidents ont eues avec l'Europe, mais il s'est engagé à l'automne, les Nations Unies, que d'autres présidents n'ont pas forcément fait. La Russie a créé un grand problème et on ne sait toujours pas comment réagir, je pense que ni en Amérique ni en Europe. On ne sait pas quelle position prendre. Il essaie de rester... En fait, Obama, c'est un président de la paix et il ne veut pas rentrer trop dans les mêlées. Maintenant, Donald Trump, je sais qu'il voudrait pas casser l'OTAN, mais il blâme beaucoup les pays européens de ne pas payer, de ne pas... Don't come forward and help avec les coûts de l'automne. Et je ne sais pas s'il est vraiment sérieux là, parce qu'on a des engagements avec l'automne. On a un engagement avec l'Europe qu'on a eu depuis la guerre, et l'automne en fait partie. Donc, je suis étonnée, parce que c'est rare que les républicains critiquent l'automne, et je ne sais pas quelle est la politique de Donald Trump de vouloir casser avec nos alliés.
Il n'a pas dit ça. Non, alors, peut-être pas cassé. Ça, c'est un peu trop loin. Quoi.
Peut-être pas cassé, mais quand même. OK. Oui, mais explique l'automne et pourquoi il critique les pays européens de ne pas participer assez à l'automne.
D'accord. L'automne. L'Europe est plus que l'OTAN. On sait très bien en France. Mon père a travaillé chez l'OTAN. Oui. L'OTAN. Je connais l'OTAN très, très bien. Et le cible pour l'OTAN est fini. La Russie n'est plus nos ennemis. Pourquoi on doit dire ça chaque fois? Alors, j'étais en Russie. Mon russe n'était pas assez bien que mon français. Alors, quand j'étais en Russie il y a 6 semaines, 2 mois, j'ai entendu une conférence de presse avec M. Poutine. Et il a dit, en fait, le journaliste a demandé qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que les Russes doivent faire avec la Crimée maintenant qu'ils ont gagné la Crimée. Et il a dit...
La Crimée.
Ah oui, voilà, la Crimée. Merci. Assez dur ce soir. Merci. La Crimée. Alors, il a répondu qu'il ne sait pas, parce qu'en fait, il a gagné la Crimée trop vite, trop facilement, parce que l'Ouest, les États-Unis, sont très faibles, ils ont tombé par terre trop vite et il n'a pas le temps pour créer une stratégie. Alors, j'étais choqué, premièrement, parce que ça semble assez ouvertement un commentaire un peu transparent pour les Russes. Les journalistes russes étaient choqués. Alors, c'était vraiment intéressant que l'OTAN n'était plus pour protéger l'Europe de la même façon. Cette idée que Trump veut dire, mais premièrement, on doit comprendre Trump, juste un petit peu. Madame Bord, elle ne connaît pas Trump, mais moi, je connais M. Trump. Il était en train de négocier 24 heures sur 24. Ça, c'est son truc. Son filtre, il était en train de dire certaines choses pour signaler ce qu'il veut faire. Alors, il crée ces extrêmes pour tester si ça marche ou ça ne marche pas. Ça, c'est une façon de parler à la New Yorkaise en plus. Mais cette idée que l'Europe est très, très importante pour M. Trump. Il se marie avec une Européenne la troisième fois. Il connaît l'Europe. Comment on peut le tester comme ça, ouais? Alors, mais sérieusement, l'Europe est toujours très, très importante. L'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, le Brésil, le Mexique, ils sont très importants, mais l'Europe est toujours centrale. Comment on peut fonctionner dans un monde aujourd'hui sans l'Europe? Impossible, impossible. Même si l'Angleterre ne veut pas être une partie de l'Europe, c'est très important toujours. Monsieur Trump, il adore l'Europe. Il va venir ici une fois qu'il gagne. Alors, il a plein de choses à dire. Alors, sérieusement, l'Europe est très, très important. Le rôle de l'Europe dans le monde change comme le rôle des États-Unis dans le monde. Si on travaille ensemble, on peut vraiment créer un monde stable pour tout le monde. On peut créer une économie qui marche avec les emplois pour le peuple. On peut créer beaucoup de choses comme on a fait depuis très, très longtemps déjà. Alors, l'influence, la centralité de l'Europe et les États-Unis dans le monde a stabilisé le monde à plusieurs reprises et c'est une bonne chose. Et M. Trump croit ça aussi.
Alors, je crois qu'on arrive quasiment à la fin de cette soirée. Je voudrais vous poser à chacun d'entre vous une question différente parce que c'est une question qui est parfaitement centrée sur l'état de cette campagne aujourd'hui. Et je vais poser les deux questions, mais elles sont différentes, pour que vous ayez le temps d'y réfléchir en même temps. Si on regarde les agrégateurs de sondages, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle des États, aujourd'hui, Donald Trump a 9% statistiquement de chances de remporter cette élection et Hillary Clinton 91% de chances de remporter cette élection. Alors, moi, je me réfère, si vous voulez, Marc, là, tout simplement, à ce qu'on appelle les agrégateurs de sondages, pas à un sondage en particulier.
Je comprends la différence, oui.
Merci. Okay. Non, non, mais c'est très important.
Oui, c'est vrai, c'est très important.
Donc, on ne peut pas dire je refuse ou je récuse tel sondage parce que sa méthodologie est mauvaise, son échantillon est mauvais. Ici, on est sur des agrégateurs. Donc, c'est une chose. Et je ne vous pose pas cette question d'une manière qui soit agressive ou autre, mais il y a clairement un déficit qui s'est creusé dans les dernières semaines. Et ce qu'on voudrait vous entendre dire, c'est peut-être d'abord l'expliquer, mais surtout nous dire... Il nous reste 3 semaines de campagne d'ici au 8 novembre. Quelle peut être la stratégie de Donald Trump pour faire ce qui, dans l'histoire politique des États-Unis, serait une forme de comeback, pour parler en anglais, qui serait le premier. Il n'y a jamais eu de tel comeback. Et puis, Constance, ce que j'aimerais vous dire, qui est là aussi le sentiment des politistes, des observateurs de l'Amérique, c'est que, de la vie politique américaine, c'est que, effectivement, Hillary Clinton est en position avantageuse dans ce scrutin du 8 novembre, mais que pour autant, il est quasiment certain que la Chambre des représentants restera à majorité républicaine et qu'il faudrait une forme de catastrophe électorale pour que la Chambre des représentants bascule en faveur des démocrates, catastrophe électorale pour les républicains, qu'il n'est même pas certain au jour d'aujourd'hui que le Sénat effectivement bascule du côté démocrate et que le chiffre le plus probable, c'est une égalité parfaite. Mais dans ce cas-là, si on avait une présidence Clinton, on aurait un Sénat à majorité démocrate. Et que, et c'est quelque chose que nous oublions un tout petit peu en France, en 2018, il y aura de nouveau des élections sénatoriales et que lors de ces élections sénatoriales, sur les 33 postes de sénateurs qui seront soumis à réélection, 25 sont détenus actuellement par des démocrates et 8 par des républicains. Et dans l'hypothèse d'une victoire démocrate au Sénat lors des élections de 2016, il est quasiment assuré, surtout au vu des tendances historiques de premières élections de mi-mandat dans une première présidence, que le Sénat redevienne la majorité républicaine. Et donc...
En 2018.
Donc, le scénario aujourd'hui le plus probable, et je parle de probabilité statistique, c'est d'une présidence Clinton avec une Chambre des représentants à majorité républicaine, un Sénat avec une très faible majorité démocrate, et donc un mandat de gouvernement qui sera forcément un mandat de gouvernement, en anglais « mandate », extrêmement faible. Et je crois que depuis la France, on regarde cette possibilité avec beaucoup d'angoisse parce que on est déjà dans un corps politique qui est considérablement affaibli. J'ai appelé dans un article récent la machine politique américaine un grand corps malade et je ne renierai pas ce propos. Donc, Constance, ce que j'aimerais vous entendre dire, c'est aussi, dans l'hypothèse de la confirmation statistique de la victoire de Hillary Clinton, comment peut-elle gouverner avec un Congrès dont on sait que au moins l'une des deux chambres sera à majorité républicaine et que la deuxième chambre, le Sénat, sera probablement dans les mains des républicains dès l'élection de 2018.
Juste une précision, j'ai un doctorat, alors je connais les statistiques très bien, et les statistiques ne sont pas le maths. Alors, on peut vraiment voir les statistiques très très intéressantes cette fois, parce qu'en fait il y a beaucoup d'indécis. Alors, ça peut vraiment changer l'élection si on peut voir si les indécis décident au dernier moment. Alors, ça, c'est le stress maintenant. Ça, c'est pourquoi les attaques sont très, très fortes. Tout le monde est stressé. Et le 8 novembre, je serai très, très content parce que je peux dormir. Mais c'est une autre petite chose sur les sondages. Les Clinton sont toujours... ils ont toujours sous-performé les sondages. En 1992, par exemple, Bill Clinton, il avait un sondage plus 6% sur ses votes qu'il a touché actuellement. Et en 2000, le prochain mandat aussi. Alors, ils ont toujours sous-performé. Ça donne un peu d'espoir. Alors, ça peut expliquer pourquoi les républicains sont vraiment optimistes à ce moment, spécialement après la semaine qu'on a vécue la dernière semaine. Alors, en fait, c'est vraiment en train de discuter sur les projets de M. Trump, sur les idées chez les républicains, et travaille aussi avec les démocrates, parce qu'on avait une grande, grande réponse sur les voteurs de Bernie Sanders. Ça, c'est très, très surprenant, parce que M. Trump a commencé de parler avec ses voteurs. Il a fait un tour des églises afro-américaines, par exemple, pour vraiment expliquer comment il peut reconstruire les centres-villes aux États-Unis qui étaient dans la destruction, qui étaient vraiment dans la pauvreté. Et chaque fois qu'on fait ça, les démocrates attaquent parce qu'ils se moquent de tout ça, mais franchement, on s'en fiche. On continue avec notre travail. Et il y a une grande différence entre le Parti républicain et le Parti démocrate. Ça veut dire que chez nous, en quoi dans l'opportunité que chacun peut avoir, en quoi dans l'égalité de l'opportunité. Chez les démocrates, ils croient dans l'égalité des résultats. Alors, ça, c'est une différence en philosophie qui change, qui fait une grande différence entre les républicains et les démocrates. Alors, on était en train d'expliquer pourquoi l'égalité d'opportunité est plus importante que l'égalité des résultats. Et comme ça, le peuple peut décider leur propre vie. S'il rate, il peut recommencer, par exemple. Mais chacun doit avoir une opportunité. Et maintenant, avec la corruption à Washington, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Ça, c'est pourquoi le peuple sont très, très en colère, de la gauche comme de la droite. Alors, ça explique beaucoup de choses autour de Madame Clinton. Alors, j'ai essayé très fort de m'arrêter d'attaquer Madame Clinton, mais on peut voir pourquoi il y a une grande colère et pourquoi M. Trump a un grand mouvement autour de lui.
Je vais rester sur le sujet, la question que tu as demandée. Mm-hmm. La question que tu as demandée, d'abord, j'aime beaucoup, beaucoup tes sondages. Je ne sais pas où tu les as, mais...
Los Angeles Times.
Je ne suis pas du tout convaincue que...
91.9 is New York Times.
Non, c'est pas vrai.
Non. Okay. Oh, yeah. I'm talking about something.
Oui, d'accord. Donc, je suis d'accord avec Mark. Je suis étonnée par les sondages. Ce serait formidable si Hillary a la chance de gagner aussi bien. Mais, par contre, je pense qu'elle gagnera. Peut-être... pas avec la grande différence que Vincent dit, mais je pense qu'elle gagnera. On va vers la fin. C'est vrai, c'est une élection absolument pénible. C'est deux ans et la dernière saison était très, très difficile pour nous tous qui sont engagés dans la politique. Et donc, disons qu'elle gagne. À mon avis, et pour moi, c'est un cauchemar si elle ne gagne pas le Sénat et le House. Parce qu'elle n'arriverait à rien faire. On a déjà vu ce que Obama, le mal qu'il a eu pour faire quoi qu'il soit, et l'animosité qu'il y avait entre les deux parties. Il faut qu'elle fasse ses preuves et qu'elle a la possibilité de faire ses preuves tout de suite dans les deux ans qui viennent. Si elle rate, elle rate. On verra, on va élire un autre Sénat et un autre House. Mais il faut vraiment donner à un homme ou une femme politique la possibilité de faire quelque chose. On est handicapé, on est comme des prisonniers avec un congrès. La seule chose, c'est que je pense que Hillary s'entendra mieux avec le congrès et les sénateurs que Obama. Parce que Obama, à la fin, il a baissé les bras. Parce que Obama était vraiment un outsider. Il était complètement inconnu par le Sénat et par la House. Tandis que Hillary, elle a beaucoup plus de combinats. Elle sait très bien parler avec ses gens. Ce sont des amis. Même Donald Trump était un grand ami de Hillary Clinton. Hillary Clinton, elle associe beaucoup avec les républicains. Je pense qu'elle sait comment manœuvrer beaucoup mieux qu'Obama. Il n'était peut-être pas aussi diplomate ou je ne sais pas quoi. Il n'était pas prêt à ça. Il n'a pas pu manœuvrer dans le Congrès avec la même finesse que Hillary Clinton va pouvoir le faire. Donc, peut-être elle arrivera à quelque chose. Et tant qu'elle n'a pas un Congrès qui a le pouvoir de veto, tant qu'on peut surmonter les vetos aux États-Unis, même si si les républicains gagnent le Congrès, the House of Representatives, mais pas trop, elle peut arriver à quelque chose parce qu'elle a le pouvoir de convaincre beaucoup plus que Obama avait. Elle a le courage et le pouvoir de convaincre. Je pense qu'elle a des amis dans le Congrès. Et est-ce que vous voulez savoir pour la petite histoire quelque chose d'extraordinaire? C'est que la fille de Donald Trump et la fille de Clinton, ce sont des meilleurs amis. Vous l'avez peut-être lu. Vous avez peut-être vu ça. Et c'est une histoire qui, pour moi, est tellement intriguée, tellement fascinante. Parce que ce sont deux familles qui sont très similaires par beaucoup de respect.
Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre deux, trois questions de la part de l'auditoire pour conclure cette soirée. J'ai un petit peu essayé de cadrer ce débat. Maintenant, c'est à vous de nous dire ce qui vous intéresse et les choses que vous n'avez peut-être pas comprises ou que vous, sur lesquelles vous souhaitez des éclaircissements. Et plutôt que de prendre des questions, d'avoir des réponses, prenons 3-4 questions et puis on verra si Marc et Constance ont encore quelques minutes pour y répondre de manière brève. Madame.
Alors, ma question s'adresse au représentant du Parti républicain Abroad. Je suis vote, j'ai reçu mon absentee ballot. Je suis d'une famille de républicains modérés aux États-Unis qui ne vont pas voter pour Trump parce qu'il ne représente pas les valeurs du Parti républicain tel qu'il le connaît. Mais surtout, ils sont tous très inquiets par ce qui s'est dit ces derniers jours sur la mise en cause de la validité du processus électoral par M. Trump. Saying the election is rigged, s'en prenant beaucoup à la presse, déniant aux journalistes le droit du Premier Amendement d'écrire les reportages qu'ils veulent, mais surtout the constant saying that the election is rigged.
Okay.
For those Republicans, it's very, very, very upsetting. What do you answer to that?
Okay. Donc ça, c'est une question sur effectivement cette rhétorique forte qui est venue de Donald Trump sur une élection truquée et donc la légitimité de celui ou celle qui sera élu le 8 novembre.
La mise en cause de l'élection totale.
Madame.
Je voulais savoir un petit peu qui était Mr. Johnson, who's a libertarian, I think. He's a candidate as well, and we never hear about him here in France. So I was wondering what are his positions compared to the Democrats and the Republicans.
Alors, une question sur les tiers candidats, monsieur.
Oui, moi, je voulais savoir ce que les deux invités pensent du niveau de la campagne, parce que j'ai quand même pas le souvenir d'une campagne aussi basse. Le fact-checking est très mauvais, ça ne suit absolument pas le rythme de la campagne. On nous balance des chiffres et des notions avec une vitesse qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. J'aurais tendance à dire que c'est la faute à Trump, mais peut-être que Mme Clinton a joué un peu avec ça aussi.
Et une quatrième et dernière question, monsieur.
Juste une question quand même, parce que Trump et Hillary Clinton se sont exprimés sur le terrorisme, et j'aimerais savoir, ici on n'en a pas parlé du tout, comment ça se passe en Europe et aux États-Unis? Comment ils réagissent tous
les deux? Ok, alors... ce que je voudrais, c'est que, Marc, d'abord, vous répondiez effectivement à cette question qui nous interpelle d'un candidat qui semble, mais vous nous direz si c'est une fausse impression, remettre en cause parce que « the system is rigged », c'est quelque chose qu'il a dit et vous ne pouvez pas le...
Bien sûr, il l'a dit.
Tout à fait, parce qu'en fait, en 2000, il était démocrate, et ça, c'est exactement ce qu'Al Gore a dit en 2000. Alors, c'est question que les élections sont... Alors, je ne suis pas d'accord avec lui à 100%, mais en fait, la presse, comment la presse pose les questions, les modérateurs pendant les débats, ce n'est pas juste comme ça, franchement. Et Trump, il sait ça parce qu'il était démocrate avant. C'est vrai qu'il a créé les divisions dans le Parti républicain. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de républicains qui pensent qu'il est toujours un démocrate. Alors, ça, c'est problématique dans notre parti, mais en fait, dans notre république, on est en train d'avoir un changement dans les partis. Nos partis aux États-Unis sont beaucoup plus fluides qu'en France, qu'en Europe, par exemple. J'ai voté pour Bill Clinton avant. vous avez ça.
Is that true?
C'est vrai. Mais cette fois, je ne peux pas voter pour les Clinton. Et en fait, je vois la vision de Trump. Alors, cette idée que les élections peuvent être manipulées et tout ça, ça c'est vrai. Parce qu'aux États-Unis, dans certains États, on n'a pas besoin d'une carte d'identité pour voter. Comment on peut régler tout ça? Imaginez d'aller dans la préfecture, voter sans carte d'identité. Alors, ça, c'est une fenêtre pour la corruption qui est partout aux États-Unis maintenant. Alors, ça, c'est la façon qu'elle a dit les choses, et toujours peut être améliorée, c'est sûr. Mais en fait, le fait derrière, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit se rendre compte et on doit savoir pourquoi beaucoup de gens, républicains comme démocrates, pensent comme ça. Et Bernie Sanders aussi a dit les choses, la même chose, quoi. Alors, ça, c'est une question sensible pour les Américains parce qu'on n'a pas l'habitude d'attaquer le République, d'attaquer les institutions. Alors, je comprends bien que les gens trouvent ça bizarre et pas très gentil. Mais Al Gore a dit exactement la même chose en 2000. Alors.
OK. Alors, je voudrais que maintenant... Oui. Vous vous exprimez sur ce même
sujet. J'ai quelque chose à dire, parce que les démocrates aussi pensent que c'est un problème.
Tout à fait. Hein.
Parce qu'on a toujours, tous les ans, on a des quantités de noirs et des quantités de pauvres qui n'arrivent pas à voter. Mais ce n'est pas le président qui dit ça. Ce n'est pas le président qui se personne qui se présente. Et c'est vrai, c'est très it's very denigrating de dire qu'une de nos institutions ne marche pas. Donc, on ne dit jamais trop haut, trop public. Et je pense que Donald Trump, il se trompe à dire ça. Il ne devrait pas diminuer une institution.
Mais Al Gore a dit ça en 2000. Alors, pas de hypocrisie quand même.
Ce n'est pas du tout la même chose. Il ne l'a jamais fait pendant la campagne. Il l'a fait après pour le compte. Parce que en Floride, il y avait une différence, il y avait un problème de compte. Et à la fin, il a abandonné. Il a dit, c'est trop troublant pour le pays, je ne veux pas continuer. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Donald Trump, il l'a dit avant l'élection. Là. Mais attends, parce qu'il y a une autre chose. Vous savez que le gerrymandering, ou c'est-à-dire la proportionnalité des régions aux États-Unis...
Le découpage électoral pour la Chambre des représentants.
Le
découpage
électoral. Le gerrymandering.
OK, est très favorable pour les républicains en ce moment. Et c'est favorable parce que c'est le gouverneur de l'État et l'attorney general qui découpe tous les 10 ans. Donc, je pense que Donald Trump, il y a beaucoup d'avantages pour les républicains cette année. C'est quasiment impossible pour les démocrates de prendre maison des House of Representatives, comme on a dit. Parce que le découpage faveur le candidat républicain.
Comme les démocrates l'ont fait avant. Alors c'est ça, normal. C'est normal quand oui, le parti en pouvoir font ça. Alors oui, ça, c'est pas bon. Et peut-être ça, c'est aussi pourquoi M. Trump a dit qu'il y a la corruption dans le système.
Oui, non, mais il a raison. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête, ce découpage avec chaque administration. Quand c'est les démocrates qui gagnent, c'est découpé pour que ça serve aux démocrates. Je suis toujours contre ce découpage, que ce soit démocrate ou républicain. Mais Donald Trump, il a un avantage cette fois-ci. Donc, c'est franchement pas rigged contre lui cette année.
Oui, il a un avantage.
Alors, il y aura du fact-checking à faire sur cette question du découpage électoral.
Pour le découpage.
Il y a plusieurs choses que les politologues disent là-dessus. C'est une question extrêmement complexe. Je ne vais pas intervenir sur ce problème. Ce que je voudrais, c'est qu'on traite de la question du terrorisme. Je sais que c'est évidemment difficile de traiter d'une question aussi complexe en peu de temps. Mais on aimerait d'abord, Constance, vous entendre justement sur quels sont les grands axes de la lutte contre le terrorisme telle qu'elle est vue par Hillary Clinton.
Mais je ne sais pas, mais j'ai eu une expérience extraordinaire quand j'ai entendu Donald Trump dire qu'en 15 jours, il va se débarrasser de ISIS. Alors, si j'avais un crystal ball, qu'est-ce qu'on dit
une boule de cristal.
Une boule de cristal, et je pouvais dire qu'il peut, en 15 jours, se débarrasser de ISIS, franchement, je voterai pour lui aujourd'hui. Mais ça, c'est une chose qui est très, très, très complexe et enfantin de dire qu'il peut se débarrasser en 15 jours de ISIS. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas un total grasp sur la situation de sécurité. Je pense que les États-Unis restent relativement sûrs au point de vue terrorisme. Le problème aux États-Unis, c'est la portée des armes. Et la portée des armes donne le droit à tout le monde. Il peut s'appeler un terroriste ou quelqu'un qui est fâché ou quelqu'un qui n'aime pas comment le système marche de tuer quelqu'un d'autre. Et pour moi, le problème aux États-Unis, beaucoup plus que le terrorisme, c'est la porte des armes. Mais une autre chose, je pense que la France, l'Europe, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ils ont marché vraiment très, très bien à avoir des services contre le terrorisme. Je sais qu'on a eu des catastrophes, mais je pense que dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est assez extraordinaire que les pays ont pu marcher si bien et travailler si bien ensemble pour empêcher encore pire.
D'accord. Premièrement, je n'ai pas attaqué Mme Clinton ce soir, mais on a vu à plusieurs reprises les démocrates attaquent. Alors, ça, ce n'est pas une bonne chose du tout. Et comment on peut travailler ensemble après?
Attaque qui?
Monsieur Trump. OK. Vous ne savez pas ce qu'il a pensé vraiment, parce que quand ils disent qu'il va débarrasser de Daesh dans 15 jours, ça, c'est une façon de parler, ce n'est pas un fait. Alors, vous savez très bien quand on parle aux États-Unis, ça, c'est ce que les gens disent chaque jour. Alors, pour exagérer les choses, pour essayer de moquer de M. Trump, ce n'est pas une bonne chose pour la République non plus. Alors, cette question de terrorisme est très, très importante. C'est sérieux. Alors, M. Trump veut penser autrement sur ces questions, parce que c'est dangereux, c'est sérieux, et bien de tourner le sujet vers le port d'armes parce que les démocrates ne savent pas comment tirer. Alors, ça, c'est une autre question. C'est une question aussi grave, mais ça, c'est une autre question pour un autre jour. Maintenant, le terrorisme est très, très grave. On était en guerre. On était en guerre avec beaucoup plus de pays maintenant que pendant l'administration Bush. Et pour moi, ça, c'est extrêmement difficile à croire que la Syrie a explosé, la Libye a explosé. Les terroristes viennent, c'est vraiment quelque chose qu'on doit commencer de se dresser dans cette façon sérieusement et arrêter de s'attaquer.
Alors, on avait une dernière question qui était sur le niveau de la campagne. On a regardé, quelques-uns d'entre nous, nous avons regardé le débat entre les sept candidats des Républicains la semaine dernière, on a trouvé ce débat d'un seul coup d'extraordinairement haute volée, mais surprenant après les débats américains. En quelques mots, pour terminer cette soirée, qu'est-ce que vous répondez à cette forme de stupéfaction des Français et de beaucoup d'Américains quant à la bassesse, la vulgarité, la haine et surtout un niveau d'argumentation qui est d'une faiblesse insigne dans cette campagne, sans pour autant l'attribuer à l'une ou l'autre des deux, à l'un ou l'autre des deux candidats.
Je pense que c'est grave, bien sûr, ça vaut le bas, mais je pense que ça a commencé parce que le Parti républicain a implosé pendant la primaire. Parce que déjà, il y avait des candidats assez extraordinaires, si on veut, si, respectables, disons, dans les candidats républicains. Et déjà là, quand on voit qu'une partie implose, je ne sais pas qui est exactement le mot, et ils ont un candidat qui n'est pas forcément le candidat de la tradition du parti. Déjà, on a du mal. Non, c'est vrai. Déjà, on a du mal à faire un débat sur le sujet, sur les vrais problèmes que l'Amérique a en face. Et je pense que ça a commencé dans la primaire.
Marc, très brièvement, vous avez le mot de conclusion.
Oh là là. Bon, mais Donald Trump, il a changé le monde politique, c'est sûr. Quand le monde politique américain a changé complètement. Il a touché 12 millions de votes. Ça, c'est extraordinaire pour le Parti républicain. Il a vraiment attiré les ouvriers, les travailleurs, les familles. Mais ça, c'est caché dans la presse. Mais en fait, le peuple sont en colère. Ils sont fâchés. On doit trouver des solutions. Et chaque fois qu'on a une question posée sur, sur la campagne, on ne peut pas descendre dans cette idée que M. Trump a dit ça et là, et Hillary dans ses mails et ses scandales et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Alors, on a beaucoup d'idées qui marchent chez les républicains. On est vraiment en train de gagner les élections et j'espère qu'on peut gagner et travailler avec les démocrates après l'élection le 8 novembre.
Mais on va essayer de s'en tenir à ce message d'unité potentielle. Je vous remercie pour vous. Merci. Bonne soirée.
We're getting better. I think you want us on
today. I think so. Okay. Oh, I wasn't.